Bonsoir. Aimé Césaire aurait eu 100 ans ce 26 juin 2013. À cette occasion, nous vous proposons la rediffusion de deux émissions à lui consacrées. La première a été diffusée le 21 avril 2008, soit 4 jours après son décès le 17 avril il y a 5 ans. Elle a été réalisée en duplex téléphonique avec Bernard Ascal, auteur, compositeur, interprète, très attaché à l'univers poétique de Aimé Césaire. Bonne écoute.
Quand je parle de négritude, c'était pour répondre précisément aux racistes, hein, qui ne considéraient comme des nègres, autrement dit des riens. Ben non, nègre, vous m'appelez? Eh ben oui, nègre je suis. N'allez pas le répéter, mais le nègre vous emmerde.
Le négrier craque de toutes parts, son ventre se convulse et résonne, l'affreux ténia de sa cargaison ronge les boyaux fétides de l'étrange nourrisson des mers, et ni l'allégresse de ses voiles gonflées comme une poche de doublon rebondit, ni les tours joués à la sottise dangereuse des frégates policières ne l'empêchent d'entendre la menace de ses grondements intestins. En vain, pour s'en distraire, le capitaine pend à sa grande vergue le nègre le plus braillard. Ou le jette à la mer, ou le livre à l'appétit de ses molosses. La négraille aux senteurs d'oignons frits retrouve dans son sang répandu le goût amer de la liberté.
En resituant l'homme noir dans sa stature humaine, dans sa dimension humaine, pour la première fois, la littérature, la négritude, a rétabli les possibilités de dialogue entre l'homme blanc et l'homme noir. Et ce n'est pas un de ses moindres mérites. Il est très vrai que la littérature de la négritude a été une littérature de combat, une littérature de choc. Et c'est là son honneur, une machine de guerre contre le colonialisme et le racisme, et c'est là sa justification. Mais ce n'est là qu'un aspect, la négritude, son aspect négatif. Si nous avons tellement haï le colonialisme, si nous l'avons tellement combattu, c'est sans doute parce que nous avions conscience qu'il nous mutilait, qu'il nous humiliait, qu'il nous séparait de nous-mêmes, et que cette séparation nous était intolérable. Mais c'est aussi parce que nous savions qu'elle nous séparait du monde, qu'elle nous séparait de l'homme, de tous les hommes, y compris de l'homme blanc, bref, qu'il nous séparait de notre frère. Autrement dit, le poète, la négritude, ne hait tellement le racisme et le colonialisme que parce qu'il a le sentiment que ce sont là des barrières qui empêchent la communication de s'établir. Bref, si j'avais à définir l'attitude du poète de la négritude, la poésie de la négritude. Je ne me laisserai pas désorienter par ses cris, ses revendications, ses malédictions. Ces cris, ces revendications, je ne les définirai que comme une postulation irritée sans doute, une postulation impatiente, mais en tout cas une postulation de la fraternité.
Des mots, quand nous manions des quartiers de monde, quand nous épousons des continents en délire, quand nous forçons de fumantes portes, des mots, ah oui, des mots, mais des mots de sang frais, des mots qui sont des rats de marée, et des hérésipèles, et des paludismes, et des laves, et des feux de brousse, et des flambées de chair, et des flambées de ville. Sachez-le bien, je ne joue jamais si ce n'est à l'an mille, je ne joue jamais si ce n'est à la grande peur. Accommodez-vous de moi, je ne m'accommode pas de vous. Parfois, on me voit d'un grand geste du cerveau happer un nuage trop rouge ou une caresse de pluie ou un prélude du vent. Ne vous tranquillisez pas outre mesure. Je force la membrane vitelline qui me sépare de moi-même. Je force les grandes eaux qui me ceinturent de sang. C'est moi, rien que moi, qui arrête ma place sur le dernier train de la dernière vague du dernier rat de marée. C'est moi, rien que moi, qui prends langue avec la dernière angoisse. C'est moi, oh, rien que moi, qui m'assure au chalumeau les premières gouttes de lait virginal.
C'est la raison pour laquelle on ne peut séparer le problème du sort de l'art africain du problème du sort de l'homme africain, c'est-à-dire en définitive du sort de l'Afrique elle-même. L'art africain de demain vaudra en définitive ce que vaudra l'Afrique de demain et l'Africain de demain. Si l'homme africain s'appauvrit, s'il s'étiole, s'il se coupe de ses racines, s'il se prive de ses sucs nourriciers, s'il se coupe de ses réserves millénaires, s'il se déleste de son passé, s'il devient le voyageur sans bagage, s'il se délaisse de son passé pour entrer plus allègrement dans l'ère de la civilisation de masse, s'il se débarrasse de ses légendes, de sa sagesse, de sa culture propre, eh bien, ou bien tout simplement, s'il considère que il n'a plus aucun message à délivrer au monde, s'il a perdu son assurance historique ou s'il ne la retrouve pas, eh bien rien n'y fera. Malgré les festivals, malgré les encouragements officiels, malgré l'UNESCO, malgré tous les prix, eh bien c'est très simple, l'art africain s'étiolera, s'appauvrira et disparaîtra. Si, au contraire, l'homme africain conserve et préserve sa vitalité, son assurance, sa générosité, son humour, son rire, sa danse, s'il se campe fièrement sur sa terre, non pas pour s'isoler ou pour bouder, mais au contraire pour accueillir le monde, alors l'art africain continuera. Bien sûr, il aura évolué. Et tant mieux, il se sera transformé. Mais c'est tant mieux, il se sera transformé comme se transforme d'époque en époque le contenu des rêves et de l'imagination de l'humanité. Mais cette évolution même et cette mutation seront le signe que l'art africain sera vivant et bien vivant. Aussi bien est-ce en nos mains. Donnez main à tous, et non pas seulement entre les mains des hommes de culture, car la séparation est absolument artificielle. C'est entre nos mains à tous que se trouve l'avenir de l'art africain. C'est pourquoi, aux hommes d'État africain qui nous disent « Messieurs les artistes africains, travaillez à sauver l'art africain », nous répondons « Hommes d'Afrique, et vous, d'abord, politique africain, parce que pourquoi politique ? Parce que c'est vous qui êtes les plus responsables. Eh bien, faites-nous de la bonne politique africaine. Faites-nous. Faites-nous une bonne Afrique. Faites-nous une Afrique où il y a encore des raisons d'espérer, des moyens de s'accomplir, des raisons d'être fier. Refaites à l'Afrique une dignité et une santé, et l'art africain sera sauvé.
Bonsoir, notre émission Bistantlac de ce jour sur Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios, est consacrée à un hommage à Aimé Césaire sur le thème « Aimé Césaire, une conscience universelle ». Aimé Césaire, auteur et homme politique français qui a traversé tout le XXe siècle, vient donc de décéder le jeudi 17 avril 2008 à 5h20 à Fort-de-France. Je vous propose tout d'abord une rapide biographie qui vous permettra de situer son œuvre et différents événements. Il convient de partir du 3 octobre 1833 où un décret royal déclare libre de fait Césaire, maçon esclave de 20 ans, et Jacqueline, blanchisseuse négresse Ibo de 19 ans. Ce sont les aïeux d'Aimé Césaire, qui lui naîtra sur l'île de la Martinique le 26 juin 1913. Son père est un petit fonctionnaire de Basse-Pointe et Aimé, avec ses frères et sœurs, connaîtra une vie difficile et pauvre, même si ce n'est pas la plus grande misère dans l'île. Il fera néanmoins des études au lycée de Fort-de-France et en classe de 5e se liera d'amitié avec Léon Gontran Damas, qui lui venait de Guyane. Ensuite, il obtiendra une bourse d'études et partira à Paris. Là, en 1932, il rencontrera des étudiants antillais communistes et surréalistes qui fondaient la revue Légitime Défense. Il rencontrera aussi Léopold Senghor qui lui parle de l'Afrique. Et à Troyes, avec Gontran Damas, ils vont fonder la revue L'étudiant noir, qui en particulier axe son objectif sur un refus du modèle colonial. Ensemble, ils élaborent une prise de conscience identitaire noire, ils forgeront la notion de négritude. Aimé Césaire épousera là une Martiniquaise, Suzanne Roussy. Puis, pendant son séjour à Normalsup, il sera amené à détruire tous ses anciens poèmes et commencera l'écriture du cahier d'un retour au pays natal qui sera, dans un premier temps, refusé par un éditeur. En 1939, toutefois, une première forme du cahier sera publiée par la revue Volonté. Puis, ce sera le retour à la Martinique, où il deviendra professeur au lycée Schlecher de Fort-de-France, son épouse également, de 1940 à 1945. Très vite, ils ont failli être mis à pied pour irrévérence, mais les parents d'élèves ont pris leur défense. En 1940, il fondera avec son épouse et ses amis René Ménil et Aristide Mauger la revue Tropique. En 1941, c'est Breton qui découvre Césaire à travers la revue Tropique. En 1945, on le sollicitera pour être élu aux élections municipales et il deviendra, un peu à sa surprise, mais il acceptera la charge, estimant qu'elle était de son devoir, sera élu maire de Fort-de-France et en fait le restera jusqu'en 2001. 1945, donc quelques mois après cette élection municipale, il est élu député communiste de la Martinique. Il ne cesse pas pour autant d'écrire et en 1946, il publiera « Les armes miraculeuses », livre de poèmes. 1956 est une année charnière puisqu'il démissionnera du Parti communiste avec une lettre retentissante à Maurice Thorez. C'est aussi l'année où il publiera la version définitive du cahier d'un retour au pays natal. Le 8 avril 1956, à Dakar, il prononcera son discours sur le colonialisme. Et en 1956 toujours, il écrira pour le théâtre sa tragédie « Et les chiens se taisaient ». 1958, il fondera le Parti progressiste martiniquais, PPM. Et de 58 à 93, il sera élu député PPM, apparenté socialiste, non inscrit de 58 à 78 et siégeant avec le PS de 78 à 93. En 1962, il publiera une étude sur Toussaint l'Ouverture. En 63, au théâtre, sa tragédie du roi Christophe, qui sera mise au répertoire de la Comédie-Française en 1991. En 1967, toujours pour les théâtres, il écrira une saison au Congo qui évoquera le parcours de Patrice Lumumba. Et en 1982, il publiera un livre de poèmes, « Moi, la minère », mais il y aura eu aussi d'autres publications entre-temps. Fin 2005, il refusera de rencontrer le candidat Sarkozy après le vote de la loi du 23 février 2005 sur le rôle positif de la colonisation. Puis un peu plus tard, acceptera une rencontre après que cette loi a été remise en cause. Et il remettra à Sarkozy le discours sur le colonialisme. Voilà pour ce parcours d'Aimé Césaire qui, à la fois, avait pris une retraite bien méritée et à la fois restait la conscience un peu du pays, conscience morale et conscience politique. Les illustrations musicales que vous avez entendues, musicales et les documents sonores aussi depuis le début de l'émission, sont tout d'abord un court extrait d'un entretien d'Aimé Césaire réalisé au moment d'un film récent de 2007, donc une répartie finale donc qui figure dans ce film. Puis vous avez entendu « Le négrier craque de toutes parts » de Aimé Césaire, bien sûr, pour le texte, mis en musique et interprété par Bernard Ascal. Ensuite, c'était un extrait du discours sur le colonialisme, le discours de Dakar du 8 avril 1956. Et puis, une autre composition de Bernard Ascal, musique et interprétation sur un texte d'Aimé Césaire, Des mots de sans frère, un texte extrait du cahier d'un retour au pays natal, on y reviendra. Ensuite, un autre extrait du discours sur le colonialisme. Pour poursuivre cette émission, je vous propose d'entendre une autre mise en musique d'un texte d'Aimé Césaire. Il s'agit de Tam Tam 2, un poème extrait des Armes miraculeuses, mis en musique et interprété par Gérard Piquiot, un autre musicien, chanteur qui s'intéresse à la poésie africaine. Et nous reviendrons vers Bernard Ascal, que nous entendrons tout à l'heure aussi en direct. Et ce sera un grand plaisir, puisqu'il est en train de travailler sur une mise en musique et en voix du cahier d'un retour au pays natal, une œuvre considérable qu'il espérait, il nous le redira, présenter à Aimé Césaire, et là, ce sera plus possible. Et je vous propose tout d'abord d'écouter un premier entretien qu'il nous avait accordé le 19 août 2002 pour une émission qui est passée en 2003 sur ses ondes, dans laquelle il évoquait son admiration pour Aimé Césaire et le travail qu'il avait déjà en cours. Ce qui, en passant, permettra de le dégager de toute suspicion d'opportunisme par rapport à la prochaine publication de l'aboutissement de son travail sur le cahier d'un retour au pays natal. Voilà un projet de longue haleine qui va arriver à son terme, et hélas, après le décès seulement d'Aimé Césaire. Je vous propose donc d'entendre Tam Tam 2, mis en musique, interprété par Gérard Piquiot, et puis cet entretien avec Bernard Ascal.
Petit pas de pluie de chenille, à petit pas de gorgée de lait, à petit pas de roulement à billes, à petit pas de secousse sismique, les ignames dans le sol, marche à grands pas de trouée d'étoiles. Marche à grands pas de trouée de nuit, le troué, le sainte mère de Dieu. De plus de chenilles, à petit pas de roulement à billes, à petit pas de secousses sismiques, des ignames dans le sol, marche à grands pas de trouée de paroles, trouée de paroles dans un gosier de bègue. Orgasme des pollutions saintes. Alléluia, tam tam. Alléluia, tam tam.
Césaire est une personnalité fondatrice pour j'ai envie de dire pour mon chemin. Et donc là, ça veut dire des décennies de compagnonnage.
À cause de son écriture ou à cause de sa manière dont il a su mener l'action politique?
Absolument. Pour l'écriture, pour la manière dont il a su mener l'action politique, pour l'indépendance d'esprit, pour la pertinence de la réflexion, c'est tout à fait... j'ai bien conscience que je n'ai pas du tout la prétention hein, d'être à la hauteur d'Aimé Césaire. Mais par contre, j'ai conscience, j'ai une conscience claire de ma dette à son égard, c'était de tout ce qu'il a pu amener, qui m'a... On sait où est le terreau, hein. Et là, pour moi, il y a un vrai terreau, hein. Et qui est bien loin, en ce qui me concerne, que j'ai bien loin de... Je suis bien loin d'avoir fait fructifier.
Si vous deviez en deux mots dire, qu'est-ce qui fait l'intérêt de sa littérature?
Qu'est-ce qui fait l'intérêt de sa littérature? Mais alors là, c'est qu'elle est... Alors,
c'est une question faussement naïve, mais...
Non, mais elle est...
De temps en temps, les poser comme ça.
Non, mais... je suis... Là, je vais aller droit au but, je n'avais pas prévu d'en parler à l'instant, mais je suis en train de préparer un travail sur le cahier d'Arthur au pays natal. Et donc, je suis plongé tous les jours dedans. Et ce texte, qui a été écrit à la fin des années 30, tout à la fin, et puis au début des années 40. Bon, il y a plusieurs versions, hein. Mais enfin, c'est quand même la période où il a été écrit. N'a pas pris une ride. En termes, les problèmes qu'il pose sont les problèmes de notre monde d'aujourd'hui. Ils sont tout et d'une actualité absolument brûlante. Alors, avec une langue qui est, j'ai envie de dire, foisonnante, c'est une forêt, je ne sais pas si je dois la qualifier d'équatoriale, tropicale, je ne sais pas quelle, volcanique, je ne sais pas quel est le mot qui conviendrait. C'est une langue en éruption, hein. C'est d'une richesse incroyable, alors qui peut parfois rendre l'accès un tout petit peu ardu. Mais le mouvement, de toute façon, de la langue est tel, la force du verbe est telle, que de toute façon, on ne peut pas se méprendre sur le sens du message. Et de toute façon, quand on prend après le texte, quand on rentre dans le texte, il est Depuis que je suis embarqué dans ce travail, je rencontre des gens variés qui sont des passionnés d'Aimé Césaire et de ce texte, et je sais que tout autour du monde, il y a un réseau de gens pour qui ce texte résonne très très fortement par rapport à la société dans laquelle ils vivent. Alors, je trouve ça tout à fait extraordinaire, un texte qui continue à avoir cette universalité. Donc, je parle du cahier parce que là, c'est véritablement un monument.
C'était sa réflexion sur la situation coloniale.
Entre autres, mais c'est aussi, mais ce n'est, alors c'est à la fois une réflexion sur la situation coloniale, c'est à la fois une reconquête de la dignité de l'homme opprimé, et de ce point de vue-là, le texte est absolument saisissant, émouvant sur cette reprise en soi de l'homme qui se redresse, de la colonne vertébrale qui se reforme. C'est à la fois l'itinéraire d'un homme, mais c'est l'itinéraire d'une communauté. C'est tout à fait extraordinaire. Et que l'on soit japonais, que l'on soit en Australie, on retrouve les mêmes situations d'oppression et de reconquête de sa dignité, de comment reconquérir individuellement et collectivement sa dignité. C'est tout à fait d'actualité, ça. C'est malheureusement.
Et là, vous préparez un spectacle autour de ce...
Oui,
ce...
oui. Alors, ça fait des années que j'y pense. Et là, cette fois, c'est embarqué. Aimé Césaire est au courant, bien entendu. Et c'est avec son accord. Eh bien, il se fait qu'il aura, l'an prochain, au mois de juin, il aura 90 ans. Alors, évidemment, on aurait envie, pour le clin d'œil, d'être prêt... Ce serait une manière de cadeau d'être prêt à ce moment-là. Si l'état où en est le travail est présentable, je célébrerai l'anniversaire de cette manière. Mais si je me trouve trop jeune, je ne me ferai aucun poids de cette date anniversaire. Et si nous ne sommes prêts que 3 mois ou 6 mois après, ce sera le moment où nous serons prêts. Mais il est vrai... Ce n'est pas du tout la date anniversaire hein, parce que j'y pensais depuis très longtemps, mais il faut tout un tas de circonstances, il faut rencontrer les gens, il faut voilà.
Et là, ce sera du théâtre, il n'y aura pas de musique.
Non, ce sera pas du tout du théâtre, ce sera véritablement. Alors là, c'est la chose sur laquelle je ne suis pas encore clair au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire. Est-ce que nous allons présenter l'intégrale du texte ou est-ce que nous allons pratiquer quelques coupures? Bon, ça je ne sais pas. Mais il s'agira bien. Bon, il s'agit d'un très grand poème épique. Il s'agira bien de servir ce texte-là. Donc, il n'est pas question de théâtraliser le texte et il y aura alternance de parties dites. Et de partie chantée. Et donc là, je suis en train de travailler en fait sur les mises en musique, sur la manière, à quel moment je veux qu'interviennent les mises en musique. Et donc c'est un travail assez lourd là, parce que le texte est pour moi, c'est un des plus beaux textes de la littérature française du XXe siècle. C'est un des textes vraiment les plus importants. Et évidemment, je n'ai pas la prétention d'être à la hauteur du texte, mais enfin, j'aimerais quand même ne pas être. voilà. Hein.
Que nous regardions l'ombre, l'ombre gagne. Que nous regardions. L'ombre gagne, l'un après l'autre, les foyers s'éteignent. Le cercle d'ombre se resserre parmi des cris d'hommes et des hurlements de fauves. Où que nous regardions l'ombre,
radio. L'ombre gagne, pourtant nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre. Nous savons que le salut du monde dépend de nous aussi. Que nous regardions l'ombre, l'ombre gagne. L'ombre gagne. Nous savons que la terre a besoin de n'importe lequel d'entre ses fils, de ses fils les plus humbles. Que nous regardions l'ombre, l'ombre gagne. Que nous regardions l'ombre gagne. Les hommes de bonne volonté feront au monde une nouvelle lumière. Ah, tout l'espoir n'est pas de trop pour regarder le siècle en face. Que nous regardions l'ombre, l'ombre gagne. Que nous regardions l'ombre gagne. Ah, tout l'espoir n'est pas de trop pour regarder le siècle en face.
On vient d'entendre L'ombre gagne. C'est un texte d'Aimé Césaire mis en musique et interprété par Bernard Ascal. Bernard Ascal est en direct, en ligne avec nous ce soir, 5 ans après l'entretien que vous avez entendu il y a quelques minutes. Donc Bernard, forcément, comme beaucoup de monde, est affecté par les événements de ces derniers jours, la disparition d'Aimé Césaire. Et on va essayer de, ça va pas être trop difficile, je pense, de parler avec lui d'Aimé Césaire, de son œuvre, de son écriture. Bonsoir Bernard.
Et bonsoir à vous.
Vous avez continué ce travail que nous évoquions il y a 5 ans et là vous êtes un peu pris de vitesse par les événements.
Alors là j'imagine que c'est lié au chantier de mise en musique du cahier de retour au pays natal. Oui, le projet en fait était de l'emmener à Aimé Césaire pour ses 95 ans, c'est-à-dire en fait le 26 juin prochain. Et donc tout est terminé. Et là, nous sommes dans des finitions techniques, mais tout l'entier du travail musical est réalisé et l'entier des enregistrements, bien entendu, est réalisé. Alors, je termine ces ajustements techniques. Après, est-ce que je vais faire paraître le disque maintenant? Là, je ne sais rien. Je suis complètement pris de cours outre, bien entendu, la peine profonde liée à sa disparition. Il y a j'ai envie de dire le désarroi sur la conduite à tenir, parce que l'hommage, là maintenant ça devient un hommage. Avant c'était une œuvre commune qu'on terminait ensemble, puisque je le tenais au courant régulièrement de l'avancement. Et alors voilà, donc je ne peux pas en dire plus là pour l'instant.
Au-delà de ça, bon, votre intérêt pour Césaire est ancien, et puis vous avez mis déjà en musique et enregistré sur quelques différents disques un certain nombre de titres, de la poésie d'Aimé Césaire en particulier, mais de la poésie africaine et du tiers-monde en général, à travers différentes aventures, qu'il s'agisse de 12 poètes francophones, qu'il s'agisse d'un CD Senghor César Damas. On va
peut-être parler justement de ce trio de poètes africains, noirs plutôt qu'africains, puisque Césaire n'était pas d'origine africaine, mais se revendiquait. C'est assez compliqué, mais vous allez nous situer ça un peu mieux.
Oui, ben il y a évidemment le fait, il y a quand même cette aventure extraordinaire quand on voit le résultat a posteriori de la rencontre de trois jeunes gens au début des années 1930 qui viennent poursuivre leurs études à Paris, qui sont déjà fort différents de caractère. Ces différences ne vont pas cesser d'être affirmées tout au long de leur vie, et en dépit de ces différences, alors je veux nommer en fait Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et puis Léon Gontran Damas, et en dépit de toutes leurs différences, ils vont rester l'entier de leur vie complètement unis. Et alors, déjà, cela est tout à fait remarquable, mais leurs années parisiennes, c'est-à-dire en gros entre 1930-32 et 1939, toutes les premières années, ils se rencontrent quotidiennement, et de tout le brassage qui se fait entre eux, naît un mouvement que l'on nomme mouvement de la négritude, et ce mouvement de la négritude a une véritable spécificité, puisqu'il est à la fois un courant artistique et qui produit des œuvres ô combien majeures, et en même temps un courant complètement enraciné dans le politique. Il y a très très peu de mouvements artistiques qui ont eu cette capacité d'être en prise avec le réel.
Et surtout, en plus, de lui donner après un prolongement politique dans la gestion de la cité, avec l'envergure de celle que Césaire a donnée, puis Senghor aussi, d'ailleurs.
Oui, et puis même à un degré moindre, Damas, qui à un moment aussi était député de la Guyane, mais la vie de Damas était beaucoup plus difficile. C'était un homme qui était très écorché, qui a souffert énormément du racisme, et ses poèmes en témoignent vraiment très abondamment, et le lire même reste toujours très douloureux. Hein. C'est une œuvre que... Enfin, là, ce sont des œuvres vraiment majeures, hein, et j'entends de l'expression à la fois du XXe siècle de l'entier de l'expression francophone. Hein. Mais il est... par exemple, quand on pense que dans le... Puisque au départ, ce sont quand même de très jeunes gens, hein, donc il faut leur laisser le temps de mûrir et de prendre conscience de leur capacité poétique, de pouvoir le coucher sur le papier. Mais en fait, on a 1937, c'est Léon Gontran Damas qui le premier publie le recueil Pigments, et recueil qui ne va pas passer inaperçu, puisque en dépit de la faiblesse des tirages de la poésie, il est très vite interdit pour atteinte à la sûreté, ce qui n'est quand même pas mal comme début dans la poésie. Hein? On a 1939 la première version, la publication de la première version du cahier. Aimé Césaire en avait entamé la rédaction quelques années plus tôt, dans des circonstances qu'il a relatées plusieurs fois et qui sont elles aussi extraordinaires, hein, puisque il était en 36 désargenté, il allait passer l'été à Paris à étudier, mais en tout cas en n'ayant pas les moyens de retourner à la Martinique, et puis l'un de ses amis, Petar Gubarina, qui était lui d'origine yougoslave, rentrait dans sa famille et l'invite à venir passer l'été chez lui. Et puis Césaire répond oui, mais n'y va pas. C'est son ami le rappelle plusieurs fois, et en fin de compte, il décide d'aller le rejoindre sur la côte dalmate. Et en arrivant, il découvre donc la mer est là et il y a une île. Césaire demande tout naturellement comment s'appelle cette île. Martinska, l'île de Saint-Martin, la Martinique. Alors, il est tellement stupéfait par cette coïncidence qu'il demande du papier et qu'il couche comme ça les premières pages du cahier. Alors, il l'a relaté plusieurs fois avec de très très faibles variantes. Donc là c'est vraiment étonnant démarrage de cette œuvre là. Et je reviens donc là en pensant, alors donc 37 pigments, 39 le cahier, et puis bon évidemment là il y a la coupure provoquée par la guerre, et au sortir de la guerre, Sangor publie deux textes magnifiques, Chant d'ombre et Hostie noire. Et puis tout de suite après, cet ouvrage qui va avoir une importance considérable, l'anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache, avec la préface de Jean-Paul Sartre. Mmh. Donc là déjà, tout se joue dans cette charnière juste avant la guerre, juste après la guerre. Là.
Et la première édition du cahier qui aurait été refusée par un éditeur, c'était refusée pour des raisons économique, ou c'était déjà une sorte de censure qu'il avait suivi?
Ça vraiment je ne sais pas. Je pense que quand on voit le texte, qui n'est quand même pas d'une directe, hein, qui n'est pas il faut rentrer dedans. Alors si je me remets en plus au moment où Césaire a montré son texte pour la première fois, bon, qu'il ait été refusé par quelques éditeurs, tout compte fait, c'est ce qui arrive à tout le monde. Donc là,
parler en connaisseur.
Là, oui, non, mais ça me paraît pas anormal. Alors, bon, en fait, il a quand même trouvé très vite une revue, la revue Volonté, hein, qui donc a publié l'intégrale du texte dans l'état où il était, puisqu'en fait c'était la première version est beaucoup plus courte que celle que l'on connaît, puisque Césaire n'a pas cessé à la fois d'enrichir et à la fois de remanier ce texte pour arriver à l'édition qui est celle de référence publiée par les éditions Présence Africaine en 56. Mmh. Mmh. Et c'est, alors là aussi il y a mais partout on a des croisements, des clins d'œil, puisque les éditions Présence Africaine existent toujours, sont toujours au même endroit, rue des Écoles, et Césaire a été très actif au moment de la création à la fois de la revue Présence Africaine par Alioune Diop, et donc là c'est pareil, c'est au sortir de la guerre en 48, et très vite, il est apparu à ces jeunes gens, Sangor, Césaire, Diop, Richard Wright, enfin, et quelques autres, qu'une revue était bien, mais qu'il fallait la prolonger par une maison d'édition. Et évidemment, ils se sont immédiatement attelés à la tâche. Et cette revue et cet homme, Alioune Diop, a eu une importance aussi considérable, puisqu'il a été à l'origine des deux grands congrès des écrivains et artistes noirs qui se sont tenus l'un en 56 à Paris à la Sorbonne, l'autre à Rome en 59, et puis après il y a eu le congrès des arts nègres au Sénégal, à Dakar, une dizaine d'années plus tard, en 66.
Mmh. Et donc Césaire rentré à la Martinique, enfin on ne peut pas bien sûr tout raconter en détail, mais s'engage politiquement, ou se trouve engagé politiquement, et puis accepte la situation, en prend la mesure, tout en continuant son œuvre poétique, quoi. Et à ce sujet, je crois que vous aviez
une réflexion particulière sur le rapport aux mots de Césaire dans la politique et dans la poésie.
Oui, eh bien, je pense que, par exemple, un texte comme l'extrait du cahier d'Arthur au Pays Natal qui s'appelle, que j'ai choisi de nommer des mots de sang frais.
On l'a entendu au début d'émission.
Mais parce que c'est les propres mots de Césaire dans le texte, hein, sont un indicateur de la confiance que Césaire mettait dans le verbe. Mais là, c'est quelque chose qu'il partage avec, on a envie de dire, tous les auteurs, la grande majorité des auteurs d'Afrique et des Antilles, ce sont des gens qui ont toujours confiance dans le mot. Et à l'inverse de ce qui se passe, de ce qui s'est passé dans les pays occidentaux où où il a été battu en brèche, où on a déstructuré le langage pour en arriver à en faire moins qu'un squelette ultra desséché. Alors moi, c'est une des raisons, par exemple, pour lesquelles j'aime tellement ces auteurs, c'est que le verbe a encore une force quasi magique. Et en pensant à l'homme politique, je me dis, avec Césaire, les mots sont toujours chargés de sens. Ils ont une véritable densité, et c'est ce qui l'oppose pratiquement à l'entier du monde politique, et c'est probablement une des raisons pour lesquelles il a eu tant de difficultés, tant de bâtons dans les roues dans ses projets. C'est que, on le voit bien avec les gens qui nous gouvernent actuellement, mais le phénomène n'est pas nouveau, c'est que ce sont des gens qui cherchent à vider, eux, alors au contraire, il y a une stratégie pour ôter le sens de chacun des mots, pour que ça devienne un galimatias dans la tête de chacun, et que tout soit interchangeable, et qu'il puisse faire passer n'importe quelle sauce dégoulinante. Alors là, il y a une attitude fondamentalement différente. Il y a le poète avec une stature de poète et une pensée qui déborde les plus petites mesquineries, et puis de l'autre côté, ceux qui veulent garder leur trône, leur couronne, etc., etc. Là, on peut... Malheureusement, là, les exemples fourmillent.
Donc Césaire a été maire, il a été député, il a été, il n'a pas eu des ambitions, on va dire, on sent bien que c'était, le but pour lui n'était pas l'ambition d'un arrivisme politique, mais c'était de pouvoir faire quelque chose pour son pays, quoi, de se mettre au service à travers les fonctions qu'il a occupées, que ce soit au Parlement français, en rappelant crûment des vérités à ses homologues de la métropole, ou que ce soit dans son pays, en œuvrant à la reconstruction de l'aménagement du sanitaire avec des moyens extrêmement réduits, quoi.
Oui, tout à fait. Ça c'est tout à fait certain. Mais toujours, alors, il y a aussi une caractéristique là dans le parcours de Césaire, c'est que son action politique, on pourrait se dire, mais dans le fond, elle l'a détournée de l'écriture, et pour lui, pas du tout. Il considère qu'il est encore dans l'acte poétique. Le passer dans le concret, ce qu'il a pu, le verbe utopique, et on appartient à la poésie. Et ça aussi est tout à fait exceptionnel comme pensée. Et une autre chose, bien entendu, il est toutes ses réflexions politiques, il y a un ancrage évident dans la terre de la Martinique, c'est là où il réside et donc c'est là où il a œuvré. Mais les réflexions, dès qu'on passe sur le champ de la réflexion, même s'il enracine la réflexion sur le terreau de la Martinique, c'est immédiatement une réflexion qui déborde. La Martinique est en expansion, elle devient un continent, et elle vient toucher et bousculer aussi bien le continent américain que le continent européen, et les passer, et on n'a plus qu'un pas à faire, et on passe sur les autres. C'est-à-dire, il est impensable pour lui de rester, de ne pas englober tous les hommes.
Oui, on a l'impression qu'il a été un moment un peu déchiré entre la Martinique et l'Afrique, et que finalement il a dépassé cet antagonisme ou cette dichotomie par le haut en visant à l'universalisme de l'être humain, tout en conservant cette spécificité qui s'est incarnée dans ce qu'on a appelé la négritude.
Oui, mais alors, par exemple, là, il y a quelque chose moi qui me passionne, c'est une des raisons aussi de mon attachement à cette homme et à cette œuvre, c'est que effectivement la négritude, c'est flagrant, est un acte de reconstruction pour l'homme noir, un mouvement par lequel il reprend conscience de lui, de ses forces et de ce qu'il est, l'égal de tout un chacun. Et je par exemple, dans de nombreux discours, là, je vois bien qu'on encercle, et on l'entendait bien hier dans les mots de notre, je vais retirer le nôtre, dans les mots du président, on veut encercler Césaire dans le concept de négritude, c'est-à-dire c'est une affaire de noir, et voilà. Mais pas du tout. Cette négritude, ce message de la négritude concerne aussi bien les rouges, les jaunes, les blancs, nous-mêmes, bien entendu, il marque un point historique et excessivement important pour tous les pays, notamment africains, et puis pour les noirs de tous les pays. Et là, je pense aussi bien aux Noirs des États-Unis et ceux qui font partie de la France, mais immédiatement, tout ce qui est en jeu dans la négritude, là aussi, on est tout le temps... avec Césaire, en fait, on est toujours dans un... je pourrais dire dans un système d'éruption et d'une c'est vraiment un mouvement en expansion continuelle, hein, et donc il ne faut surtout pas se dire ça ne concerne que les Noirs, absolument pas, on serait complètement à côté, d'après, enfin moi c'est comme ça que je le ressens et que je le vis, hein. Et je pourrais penser même que son ami Senghor lui-même, dans son engagement, qui a été pendant des années un engagement totalement solitaire dans la francophonie, était aussi voilà, la francophonie, c'est le fait de pratiquer une langue, la langue française, et cette langue est partagée par des millions d'êtres humains. Voilà. Après, normalement, enfin, j'ai envie de dire, on ne doit pas, dans la pensée de Senghor, c'était flagrant, et évidemment, pas que dans sa pensée à lui, la notion de francophonie n'est pas une nouvelle mainmise colonisatrice de la France. Hein? C'est, on partage, nous avons une langue en partage. Et là aussi, c'est ce fait de... On brise les frontières, on brise les frontières temporelles et on brise les frontières géographiques temporelles parce que aussi bien Senghor, aussi bien Césaire, leur culture les amenait à pratiquer aussi bien le grec, le latin, enfin je veux dire, et d'autres langues. Et donc de ce point de vue-là, une très grande conscience de l'histoire et de tous les héritages. Et bien entendu, de l'héritage africain. Mais je pense qu'il y a eu un moment, pour eux, cet héritage-là était tellement réassumé et réintégré charnellement qu'ils pouvaient reprendre en compte l'héritage humain, tout simplement.
Voilà, il nous reste quelques 5 minutes, peut-être moins si on décide d'écouter encore un peu de musique. Je rappelle que vous êtes Bernard Ascal, artiste peintre, poète, auteur, compositeur et chanteur, et que vous avez une véritable passion pour l'œuvre de Césaire depuis fort longtemps. Et donc on a tenu à évoquer avec vous, et je vous remercie de cet entretien, donc la vie et l'œuvre de Aimé Césaire. Il y a encore quelque chose qu'on n'a pas dit qui serait important d'évoquer.
C'est une question là.
Oui,
où...
oui, ah, mais... éventuellement.
Ben, il y a tellement. Mais oui, j'aimerais, par exemple, le texte Cahier d'Arthur au pays natal, qu'on a évoqué donc plusieurs fois là. Il se termine par le mot vérition. Ce mot est une invention d'Aimé Césaire et je trouve formidable par rapport à la langue, par rapport justement à l'assujettissement à un pays ou tout ça, que Césaire ait choisi de terminer par un mot qui n'existe pas, donc un mot qui projette vers le futur.
Bien, eh bien, Bernard, je vous remercie. Et puis maintenant, il nous reste à attendre le fruit de votre travail à vous, à partir du merveilleux travail d'Aimé Césaire, hein, cette langue française qu'il a portée à son plus haut niveau, on peut dire ça.
Hein, ah, tout à fait, tout à fait. Complètement une création totalement originale et ne dépendant de personne. S'il y a un rapport, bien entendu, il l'a dit lui-même, il a été marqué par le surréalisme, mais là aussi, le surréalisme est un des ruisseaux qu'il a alimenté, et lui en a fait une langue nouvelle. Césaire, c'est en permanence la genèse, voilà.
Bien, merci.
Merci beaucoup, merci.
Ne chercha pas d'alibi. Au contraire, il scrutait le paysage où s'incrustait, épouseur du lieu que l'érosion l'érode, que l'alizé le gifle. Le tout morne, le tout volcan. La cohérence du voyage n'en fut pas affectée. Les voies de traverse n'étant que blessure d'éboulis, à tâtons il dessinait la fragile chance tournée vers le soleil, momie debout, momie debout. Thank you.
Thank you.